tout de suite sur Radio Saint-Fé, Petites Échappées.
Petites Échappées, ce sont des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores, mais aussi des rendus d'ateliers radio réalisés par Radio Saint-Fé.
Petites Échappées, c'est un peu la petite sœur de notre programme Les Ondes Buissonnières, des formats courts, moyens ou un peu plus longs pour profiter encore plus des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Retrouvez une sélection de programmes créés par nos partenaires, collectivités locales, radios associatives ou toute autre structure ayant créé un contenu que nous décidons de diffuser.
Petites Échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.
Tout se passe bien depuis votre mort ?
C'est pas de la mort est une fin normale en soi.
Bonjour, hier j'étais à Die. J'ai été invitée comme présidente de Thanatosphère à une table ronde sur les funérailles autrement, funérailles écologiques. C'était le titre, on était plusieurs, et il y avait entre autres Jean-Loup de Saint-Phal qui vient pour une thématique dont j'avais pas du tout connaissance, qui s'appelle « C'est le collectif pour une sécurité sociale de la mort ». Donc ça m'a intriguée, j'ai un peu cherché sur internet ce qu'ils avaient fait, j'ai vu une conférence gesticulée qu'on pouvait regarder en ligne, et puis surtout j'ai rencontré Jean-Loup, et puis ce matin on est encore ensemble avec Jean-Loup, et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir avoir plus d'informations sur leur projet, pour pouvoir le partager. Bonjour Jean-Loup.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter peut-être ce qui est important pour toi de nous partager pour qu'on comprenne comment a germé cette idée de sécurité sociale de la mort ?
Alors, il faut que je nous présente parce qu'en fait, on est surtout un binôme au départ à cette mi sur cette question-là. Il y a à la fois une réflexion autour du deuil. C'est-à-dire qu'un collègue à moi, qui s'appelle Alban, et moi-même, on a connu des deuils assez lourds pendant notre vie. Et du coup, on s'est dit que le deuil, c'était une question qui méritait qu'on se penche dessus à plusieurs points de vue. Mais on est aussi très intéressé par la sécurité sociale. On trouve que c'est un modèle de fonctionnement qui est hyper porteur, qui est révolutionnaire. Et là-dessus, on s'inspire pas mal des travaux d'une association qui s'appelle le Collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, qui veut étendre à l'alimentation la sécurité sociale. Alors ce qu'on s'est dit, c'est mais faudrait qu'on fasse ça pour la mort. Il faudrait qu'il y ait une sécurité sociale des obsèques. Et en fait, on a commencé un peu à se renseigner sur le sujet. On venait de passer tous les deux en même temps notre concours de prof d'histoire géo. Donc on était dans une dynamique où on était prêt à travailler beaucoup en lisant, etc. Et du coup, on a commencé à se rencarder sur le monde funéraire, on partait de rien, pour essayer de voir comment ça pourrait être possible d'y apporter un petit peu de changement politique pour que tout le monde ait accès à des obsèques garanties.
Ok, et du coup, l'idée, ça serait que les personnes puissent, un peu comme ce qui se passe avec la naissance, par exemple, qui est la première partie de notre vie, ou quand on va accoucher, quand on va à une maternité, tout est pris en charge.
Tout à fait. C'est un peu particulier, parce que au début de la vie, on ne paye pas, on considère que c'est nos cotisations qui font que on est tous un peu copropriétaires de la naissance de tout le monde. Par contre, pour la mort, ça se passe pas comme ça. Donc c'est bizarre, pourquoi est-ce que la fin de notre vie est payante, et quelque chose même qui fait l'objet d'un commerce lucratif, et pas le début, c'est bizarre. Donc du coup, effectivement, on veut s'inspirer de la sécurité sociale existante, et notamment sur la question de la naissance, pour que tous les moments importants de la vie, ils soient garantis à tous par le biais de la cotisation.
Et ce que je trouve en plus intéressant avec ce projet-là, c'est que du coup, ça met la mort au cœur d'un parcours de vie. Parce que je trouve qu'on a tendance à l'ostraciser, cette étape-là, pourtant inéluctable de notre passage sur la Terre. Et donc là, si dès le début, alors j'imagine que vous trouverez un autre nom, mais que la carte vitale, elle va aussi jusqu'à notre arrivée dans l'au-delà, ça veut dire que c'est plus normal, en fait. On n'a pas, il y a peut-être un discours où il y a une connaissance des acteurs du funéraire, de ces étapes-là, en tous les cas, qui serait institutionnalisée.
Ouais, voilà, c'est tout à fait le but, effectivement. C'est que on se réempare de ce sujet-là. Aujourd'hui, il y a un besoin, une envie de beaucoup de gens de réinvestir le champ de la mort et du funéraire. Et le but, c'est que ce soit garanti aussi par le côté économique. Que quand on perd un proche, on puisse directement se demander comment je vais vivre mon deuil, comment je vais me comporter avec les agents funéraires, qu'est-ce que je vais attendre d'eux, sans qu'il y ait une question économique qui vienne parasiter la chose. Parce que bon, agent funéraire, c'est un métier du lien, un métier du soin. Et ça pourrait être intéressant qu'on n'ait pas à se poser de questions économiques au moment où on les rencontre, pour qu'on puisse se consacrer à la préparation des obsèques et ainsi améliorer la relation qui existe entre les agents et les endeuillés.
Oui, je pense que ça serait effectivement très agréable aussi pour les opérateurs funéraires, en tous les cas certains, d'avoir vraiment la possibilité de se consacrer à l'accompagnement des familles et pas avoir de pression financière pour effectivement faire du chiffre. Et donc en général, dans ce type de profession, faire du chiffre, ça veut dire vendre tel ou tel type d'article funéraire. Donc à ce moment-là, on pourrait vraiment écouter la famille et lui laisser choisir le type de funérailles qu'elle a envie d'organiser.
Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, il y a une espèce d'ambiguïté sur la relation qu'on a avec des opérateurs funéraires. Puisque à la fois, ils sont censés accompagner, conseiller, aider aussi dans le deuil. En revanche, en même temps, ils sont censés nous vendre des accessoires, ce qui fait que y a un conflit d'intérêts qui n'est pas volontaire, qui vient pas d'une volonté d'abuser de la confiance, mais qui existe quand même. Alors que si, de toute façon, toute la question économique, elle est déjà évacuée, on revient sur l'essentiel. Et du coup, le problème aussi, c'est que les familles parfois se méfient des agents funéraires au départ. Là, cette méfiance-là, elle serait atténuée. Comme quand on va chez son dentiste, on n'a pas à se soucier nécessairement de ce qu'on va lui payer quand on a une bonne mutuelle, quand on a la sécurité sociale derrière avec la carte vitale. Et donc, on peut directement se focaliser sur le deuil plutôt que sur le prix des capitons, quoi.
Oui, tout à fait. Mais il existe par contre déjà des aides de l'État, des mutuelles, il y a de la part des caisses de retraite qui peuvent déjà être mobilisées par les familles, non?
Oui, tout à fait. En fait, il y a du déjà là. C'est-à-dire que ça, c'est le sociologue Bernard Friot qui dit ça par rapport justement à ce projet dont je parlais au début, de sécurité sociale de l'alimentation. Il y a plein de choses qui sont déjà dans la société et qui peuvent être étendues. Et dans le funéraire, c'est pareil. Il y a plein de dispositifs de la sécurité sociale, par exemple, comme le capital décès. Quand une personne meurt en activité, il est possible de demander une aide de la sécurité sociale. Le problème, c'est que ces aides qui existent, déjà, elles sont mal connues, et par les familles, et aussi par les agents funéraires, parce que ça fait pas partie de leur formation. Et donc, du coup, il n'est pas rare du tout que ces aides, elles ne soient pas demandées, et notamment par ceux qui en ont le plus besoin. Donc l'idée, ce serait de rendre ces aides qui existent universelles et d'en simplifier énormément l'accès, de les rendre automatiques.
Oui, c'est ça, parce que la sécurité sociale, elle est au courant que la personne est décédée, donc il pourrait y avoir un déclenchement automatique du versement si la personne est en activité.
Exactement.
On pourrait imaginer ça. Ok. Et est-ce que vous avez un peu rencontré des acteurs du secteur pour leur parler de cette innovation, cette invention, cette possibilité?
Alors oui, déjà en ce moment même. Et puis effectivement, on a rencontré notamment Florence Bardon de la coopérative funéraire de Dijon, avec qui on avait bien échangé sur comment construire un monde funéraire un peu alternatif. Aussi, on s'était rendu au salon Funexpo, donc le grand salon du funéraire, où là on a découvert vraiment le funéraire dans toute sa diversité, parce qu'il y avait des agents de toutes sortes, des entreprises extrêmement variées dans leur approche. Et puis aussi, on a essayé de rencontrer les législateurs, ceux qui s'occupent de toutes les lois qui tournent autour du funéraire, lors d'une journée au Sénat qui avait pour thème les 30 ans de la loi Sueur, qui a ouvert à la concurrence, enfin qui a cassé le monopole communal sur les pompes funèbres dans les années 90. Et donc ça, c'était intéressant aussi, puisque du coup, on avait à la fois l'aspect juridique, on avait à la fois l'aspect de la réalité des agents funéraires. Donc ça nous a permis un petit peu de nous immerger dans ce monde-là. Et aussi, on a eu des entretiens avec pas mal d'agents qui travaillent dans la grosse entreprise du secteur, que sont les pompes funèbres générales, qui sont syndicalistes et donc qui nous ont expliqué un petit peu qu'est-ce que c'est d'être salarié dans ces entreprises-là. Et aussi avec des prêtres, puisque les religieux font, c'est aussi du personnel funéraire, parfois quand même, avec les prêtres qui sont quand même autant de maîtres de cérémonie. Donc on a aussi essayé de trouver ces aspects un peu déjà alternatifs au funéraire pour avoir une vision vraiment globale et d'ensemble avant d'en parler, parce que nous, c'est pas notre milieu, on n'a pas d'expérience professionnelle dans ce monde-là, donc il nous faut avoir un regard qui soit le plus large possible.
Et quelle a été leur attitude vis-à-vis de cette idée ?
Alors, il y a toujours ce que on appelle un peu la demi-heure de méfiance, où au départ, bah forcément, on arrive avec notre projet. Bon, au départ, nous, on connaît un peu plus la sécurité sociale que la mort. On n'est pas du milieu. Donc, au départ, il y a une certaine forme de, voilà, de méfiance, où on essaye d'estimer si on est vraiment compétent pour parler de la chose, si on a étudié la question. Bon, il s'avère qu'on a pris un an pour un petit peu lire sur le sujet, donc on a en tête quelques dynamiques du secteur qui font que généralement, après, la conversation démarre plus facilement, et où, bah, en fait, on commence à discuter de ce que pourrait être cette sécurité sociale de la mort. Et en fait, généralement, nous, bon, il y a plein de choses qu'on ignore, ce qui fait que c'est souvent les agents eux-mêmes, quand ils ont compris le principe de ce qu'on propose, qui viennent enrichir la proposition d'un regard différent. Par exemple, quand on a parlé à Funexpo, quand on a parlé avec à la coopérative funéraire de Dijon, bon, eh bien, il y a plein d'approches qu'on n'avait pas du tout imaginées qui viennent enrichir le projet qu'on porte. Par exemple, avant, on se disait, il faudrait que sur la carte vitale, il y ait un montant fixe. Bon, par exemple, le montant moyen des obsèques en France aujourd'hui, 3 800. Et en fait, en discutant avec la coopérative de Dijon, on se rend compte que des prestations, ce serait plus intéressant qu'un montant fixe, étant donné que les tarifs, ça peut varier d'une région à l'autre, selon aussi les différences d'une commune à une autre, selon les différences d'accès pour le cimetière, etc. Il y a plein de paramètres qui font que un forfait en prestation, ce serait plus intéressant qu'un forfait en capital fixe de 3 800 euros, par exemple, ou 2 000 euros. Donc, on en apprend, en fait, plus qu'autre chose quand on va discuter avec les agents, donc c'est ça qu'on apprécie.
Sur la technicité du métier, et puis sur les contraintes, effectivement, géographiques, si par exemple quelqu'un veut une crémation et que le crématorium est très loin, du coup, les frais de transport vont être beaucoup plus importants que si on est dans une agglomération qui a un crématorium.
À ce niveau-là, l'exemple le plus caricatural et le plus, à nos yeux, choquant, qui serait vraiment une chose qui mériterait qu'il y ait un investissement public sur la question, c'est les dom-toms. Parce que par exemple, en Guyane, on ne peut pas avoir une crémation sur le territoire de la Guyane. On est obligé de partir pour un autre territoire d'outre-mer pour pouvoir avoir une crémation. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui nous laisse à penser que de la même manière que la mise en place d'une sécurité sociale du soin a entraîné, après 1946, des CHU sur tout le territoire, ben il faudrait qu'il y ait la même chose pour le funéraire, que enfin il y ait un investissement grâce à nos cotisations qui fasse que tous les territoires puissent avoir à leur disposition un crématorium, et que ce soit pas selon là où on habite, mais que ce soit quelque chose d'universel.
Oui, et on pourrait imaginer aussi que ces ressources, ça puisse aussi servir à faire de l'innovation dans le funéraire, parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a d'autres possibilités que l'inhumation ou la crémation. Et par exemple, en Guyane, comme effectivement, il n'y a pas de crématorium, ils sont en train peut-être d'imaginer qu'ils pourraient tester l'aquamation, qui est un système qui est beaucoup, avec une infrastructure qui est beaucoup moins onéreuse qu'un crématorium. Donc c'est vrai qu'il y a des innovations aussi qui pourraient, du coup, participer à ce type de financement et de prise en compte commune. Et alors, du coup, vous êtes un collectif. Si on s'intéresse, si on veut vous suivre, si je ne sais pas comment on peut vous rencontrer, vous êtes où ?
Alors, on est pour le moment une toute petite équipe. On est localisé. Alors, les deux personnes qui se sont le plus investies, c'est mon collègue Alban, prof comme moi, et puis bah, moi-même. Donc, on est respectivement à Calais et à Sens. Et En fait, on est surtout sur Internet pour le moment. C'est surtout par là qu'on essaye de visibiliser le projet qu'on défend. Et donc, on est sur, on essaye d'aller sur tous les réseaux sociaux qu'on connaissait. Donc, Facebook, Instagram, TikTok récemment, YouTube, où on essaye de mettre, par exemple, des extraits de notre conférence gesticulée. Donc, une conférence gesticulée, c'est une conférence où on essaye d'ajouter un peu de vécu et d'être dans quelque chose de plus ludique qu'une simple conférence ordinaire. Et donc, on essaye de mettre des extraits de cette conférence un peu sur les réseaux sociaux pour faire connaître l'idée qu'on porte, c'est-à-dire une sécurité sociale des obsèques et du deuil. Et pour le moment, on réussit à la fois avec nos interventions dans différentes villes et avec notre présence sur Internet à toucher des mondes de plus en plus larges, des niches de plus en plus nombreuses. Et c'est ça qui, pour le moment, nous satisfait, c'est qu'on réussit à la fois à parler à un monde assez militant qui s'intéresse à la sécurité sociale, qui s'intéresse au social, et au monde des obsèques et à certains acteurs du funéraire qui sont intéressés par notre démarche. Donc pour le moment, on est encore petit. Si on veut nous suivre, donc voilà, il faut aller dans ces réseaux sociaux-là et chercher Sécurité sociale de la mort. Et puis si on veut nous donner un coup de main, ce qui est vraiment bienvenu, eh ben faut pas hésiter à nous envoyer un mail à sécusocialemort@gmail.com, qui est notre adresse mail où ben du coup depuis laquelle on organise tous nos projets et tous nos contacts.
Ok, et eh ben merci beaucoup. En tous les cas, moi je trouve ça très porteur et très prometteur, et je vais me tenir au courant. Merci.
Merci beaucoup.
Radio BLV 93.6, on ne mourra pas d'en parler. Ce mois-ci, c'est la thématique de la mort et l'argent, le prix des funérailles ou encore comment est-ce qu'on rajoute à la perte d'un être cher une perte financière. On a commencé un peu sur les chapeaux de roue avec une interview que j'ai enregistrée en fait le mois dernier à l'occasion d'une rencontre aux rencontres d'écologie au quotidien. Je vous propose une petite pause musicale, c'était pas évident de trouver une chanson dans notre thème. Alors j'ai trouvé cette musique qui pouvait, d'un point de vue des systèmes économiques, illustrer le propos. Et puis aussi, à un moment, il y a un mot-clé.
Et ça fait 1 pour la monnaie, 2 pour la monnaie, 3 pour la monnaie, 4, 5, monnaie, monnaie. Massacre et bénéfice, je crois qu'on connaît. Le capitalisme et son projet, 1 pour la monnaie, 2 pour la monnaie, 3 pour la monnaie, 4, 5, monnaie, monnaie. Massacre et bénéfice, je crois qu'on connaît. Le capitalisme et son projet. C'est portefeuille et porte-flingue contre porte-voix. Et perds ton œil si le gilet ne plaît pas. Le thème est simple, monnaie, monnaie, monnaie. Pour les très riches, pour les autres, monnaie de singe. C'est Porsche Cayenne contre pâte au sel. Cordon de la bourse contre bas de laine. Le monde bat de l'aile et nous on bat de l'avenir. Au bout de la chaîne alimentaire, goût vaseline. Enlève la rime et le lubrifiant. Au bout de la chaîne alimentaire, y'a un goût d'excrément. On nous fait manger de la merde, consommer de la merde. Consommer, consommer, consommer quand même. C'est libre-échange contre libre-arbitre. Paril d'essence, livreur Uber Eats. C'est les GAFA contre nos gafettes. Et ça fait 1 pour la monnaie, 2 pour la monnaie, 3 pour la monnaie, 4, 5, monnaie, monnaie. Massacre et bénéfice, je crois qu'on connaît. Le capitalisme et son projet, 1 pour la monnaie, 2 pour la monnaie, 3 pour la monnaie, 4, 5, monnaie, monnaie. Massacre et bénéfice, je crois qu'on connaît. Le capitalisme et son projet. C'est la machine contre l'ouvrier, le golden parachute contre l'emploi sans filet. Les grandes familles contre les hauts fourneaux, la fourrure contre la fournaise de ceux qui ont le corps en lambeaux. C'est les dollars contre les taux larges. Je tairai l'insulte et ceux qu'on croit jetables. C'est le bénef pour héritier, dernière goutte d'une lignée, vu que la terre elle est éreintée. J'enterre tout le monde versus j'ai rien fait. Tueur conscient contre Bayrembe. C'est la police contre le bloc, on sait qui protège le citoyen, putain d'époque. C'est les violents contre les radicaux. Le roi soleil contre les saligots. C'est des lingots pour un linceul doré. Qu'ils s'étouffent dans leur linge châle. 1 pour la monnaie, 2 pour la monnaie, 3 pour la monnaie, 4, 5, monnaie, monnaie. Massacre et bénéfice, je crois qu'on connaît. Le capitalisme et son projet. 1 pour la monnaie, 2 pour la monnaie, 3 pour la monnaie, 4, 5, monnaie, monnaie. Massacre et bénéfice, je crois qu'on connaît. le capitalisme et son putain de projet.
Du linceul doré. Alors est-ce que c'est parce que le linceul est doré que le prix du funérailles est assez onéreux? Je ne sais pas. En tous les cas, ça a été estimé à 3 800 euros les prix moyens de funérailles. Donc c'est inhumation et crémation confondues. Ça serait un prix moyen au niveau national, ce qui ne reflète pas la réalité puisque, comme on l'a dit, il y a de grosses disparités en fonction des territoires. À quoi sont dues ces disparités? Eh bien, peut-être à une entente des opérateurs funéraires locaux et aussi au fait que les familles n'ont pas la même possibilité de bénéficier de certains services pour l'organisation des funérailles. Par exemple, le crématorium peut être loin du domicile, ce qui oblige à des trajets plus longs, donc plus coûteux. Il se peut aussi que l'établissement de santé, peut-être dans lequel est décédé le défunt, comme c'est la majorité des décès actuellement en France, plus de la majorité des décès actuellement en France, ne possède pas de chambre mortuaire. Une chambre mortuaire, c'est un endroit où le corps sera conservé. Il y a des salons privatisables en tous les cas, le temps où vous voyez le défunt et au temps du recueillement avant le départ, en général pour le crématorium ou pour le cimetière. Ces chambres mortuaires, elles sont gratuites dans les trois premiers jours qui suivent le décès, qui sont en général souvent le temps des cérémonies, de l'organisation des cérémonies. Et sinon, c'est pas très cher les jours supplémentaires. Par contre, un hôpital, un établissement de santé, public ou privé, ne sera obligé d'avoir une chambre mortuaire qu'à partir du moment où il a plus de 200 décès par an. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ça va être plutôt les hôpitaux de villes moyennes ou de grandes villes. Ce qui fait que beaucoup de personnes n'auront pas la possibilité de bénéficier de ce service. Qu'est-ce qui leur reste alors? Il y a la possibilité que le défunt soit dans un domicile privé. Donc à ce moment-là, soit c'est parce qu'il y est décédé, soit il y aura été transporté. On peut transporter un défunt, la législation est très stricte, c'est dans les 48 heures qui suivent un décès, il y a toujours la possibilité de transporter un corps sans cercueil. Ensuite, il faudra qu'il y ait une mise en bière. Une mise en bière, ça veut dire que la personne sera mise dans un cercueil. Il y a une législation très stricte concernant le transport du corps. Alors, par rapport à un décès, vous avez 48 heures pour transporter un corps sans cercueil. Et après, il faudra que ce soit une mise en bière, c'est-à-dire une mise dans un cercueil fermé, avec impossibilité, évidemment, de le rouvrir. Donc, c'est des choses auxquelles il faut quand même penser quand vous organisez une cérémonie, pour savoir à quel moment vous voulez voir la personne décédée, à quel moment vous voulez organiser la cérémonie, si celle-ci sera publique ou privée. Enfin voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête pour savoir quel type, si vous voulez, de cheminement vous allez décider pour organiser ces funérailles et peut-être aussi prendre la dimension économique en compte si vous le souhaitez. Et donc pour ça, il faut avoir une idée de quel est l'impact, par exemple, du transport ou de la location d'un salon dans une chambre funéraire pour pouvoir vous décider. Donc la chambre funéraire, par contre, c'est un opérateur privé, un opérateur de pompes funèbres qui va posséder, c'est comme un hôtel, si vous voulez, pour personnes décédées. Donc il y a la possibilité d'avoir des salons privatisables ou alors ces séjours, ce qu'on appelle en cases réfrigérées, qui vont être moins chers, avec la possibilité temporairement de privatiser un salon pour que les proches puissent se recueillir autour du corps du défunt. C'est des structures qui peuvent être assez chères dans la facture finale, si vous voulez. Donc c'est intéressant de bien anticiper et puis d'être au courant de ce type de prestation. Il y a aussi la possibilité, si vous préférez garder le corps à domicile et que votre domicile le permet, c'est de louer du matériel réfrigérant qui va permettre la meilleure conservation du défunt. Donc ça peut être des tables réfrigérées ou des rampes. Il y a d'autres possibilités. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être à demander aussi auprès des pompes funèbres de votre entourage pour savoir s'ils proposent ce type de prestation. Ça peut participer à faire baisser la facture en tous les cas. Un autre pôle important de dépenses, c'est le transport, comme on l'a vu. C'est assez cher de transporter un défunt, sachant que le métier principal finalement des pompes funèbres, c'est ça, c'est de transporter des morts. Il y a des véhicules pour transporter avant une mise en bière et après mise en bière qui sont en général des véhicules de cérémonie qu'on voit après au crématorium et dans les cimetières. C'est des véhicules assez grands dans lesquels les porteurs peuvent également être présents. Ce moment du trajet, c'est-à-dire et les kilomètres et la prise en charge du véhicule, ça peut aussi être un moment assez onéreux. Donc pareil, c'est intéressant peut-être aussi quand vous organisez une cérémonie, si vous réfléchissez aussi en termes de trajet, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment réduire la facture que vous paierez à la fin. Ensuite, il y a les soins de conservation qui vont vraiment être aussi un peu déterminant sur la façon dont on peut baisser le prix des obsèques. Les soins de conservation, c'est quelque chose qui est très courant en France. C'est un soin qui est fait sur les défunts de manière à supposément préserver le dernier regard qu'auront les proches. C'est un procédé qui est quand même assez qui a un impact fort pour l'environnement. J'en avais parlé dans l'émission sur les funérailles écologiques, puisque c'est de changer les liquides corporels du défunt par une quantité importante de liquides biocides qui ne seront pas dégradés, qui resteront soit dans le sol si c'est une inhumation, soit partiront en fumée de la crémation. Et ça, c'est quelque chose qui est très cher. C'est très très courant en France. En France, c'est pratiquement un défunt sur deux. Donc c'est argumenté de diverses manières par les entreprises de pompes funèbres. Souvent, les gens ne savent pas très bien de quoi il s'agit. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner. C'est des prestations qui peuvent aller jusqu'à entre 400 et 600 euros. Donc c'est pas du tout anodin, ni pour l'environnement, ni pour le défunt, ni pour le budget de la famille. Alors après, hélas, il y a des fois des gérants de chambres funéraires qui vont refuser qu'il y ait une présentation en salon personnalisé s'il n'y a pas eu de soins de conservation. C'est à mon sens un abus de position dominante, on va dire, mais bon, c'est pas des moments souvent où on est en capacité de négocier. C'est d'ailleurs souvent ça le problème d'organiser des obsèques, c'est que c'est un moment où on n'est pas en position de négocier. On est dans une urgence. Il y a des gens qui disent que c'est comme si la famille était... il y avait un chantage à l'urgence, c'est-à-dire qu'on vous explique qu'il faut vraiment vous dépêcher parce qu'il y a 6 jours ouvrables pour organiser les funérailles. 6 jours ouvrables, ça veut dire que on ne compte pas les dimanches ni les jours fériés et on commence à compter à partir du lendemain du jour du décès. Donc en fait, moi, ce que je considère, c'est qu'il y a quand même du temps. Il y a en tous les cas du temps pour peut-être prendre 2-3 heures pour discuter, rediscuter avec l'intégralité de la famille, des proches, des personnes concernées sur la cérémonie que vous allez vouloir mettre en place. Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire et la meilleure manière de le faire, peut-être, c'est d'anticiper, c'est de vous intéresser à toutes ces thématiques au préalable de manière à pouvoir effectivement déjà avoir une idée de combien ça peut coûter, quelles sont les différentes possibilités pour pouvoir vous être en capacité de choisir ce que vous voulez par rapport à vos valeurs, on va dire, par rapport à ce que souhaitait le défunt, par rapport aussi peut-être à cette dimension économique, si c'est quelque chose qui vous préoccupe. Il n'y a pas de raison que vous subissiez le prix de prestation si vous n'avez pas envie, en fait. C'est pas l'opérateur funéraire, finalement, qui met en musique, on va dire, les obsèques qu'il a, lui, l'habitude de faire, mais c'est vous qui devez pouvoir avoir les obsèques que vous, représentants du défunt, avez besoin de vivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est un positionnement qui est complètement différent, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez besoin qu'on vous conseille, qu'on vous aiguille, pour mettre au mieux ce que vous avez envie. Alors peut-être vous n'avez pas forcément d'envie, le terme est peut-être un peu en décalage vu ce que vous vivez, mais ce que vous souhaitez vivre à ce moment-là, parce qu'on sait très bien aussi qu'une cérémonie funéraire qui est adaptée, si vous voulez, qui représente et la famille, les proches et le défunt en termes de valeurs, c'est un début du deuil, du processus de deuil qui est enclenché, qui gardiez la capacité de décider. Alors comme c'est un thème un peu vaste, qu'on l'a traité là un petit peu rapidement, on fera l'émission du mois prochain également consacrée à cette thématique avec le représentant de l'Association française d'information funéraire que l'association Thanatosphère informe et sensibilise sur toutes les thématiques liées à la fin de vie, aux prestations funéraires, aux funérailles, à la mort, au cimetière, qu'on organise différents types d'événements, en particulier des cafés mortels et des ateliers On ne mourra pas d'en parler. On a une newsletter si vous souhaitez, il suffit d'aller sur le site www. thanatosphere.fr, vous pouvez vous inscrire. Et il y a aussi la possibilité sur le site de consulter l'agenda, la page de l'agenda, où vous avez toutes nos informations.
Tout se passe bien depuis votre mort ?
La mort est une fin normale en soi.
La galerie Espace Liberté de Cré présente une exposition intitulée « Au jour le jour ». La commissaire de cette exposition, Hélène Henkens, a bien voulu répondre à quelques questions.
Merci beaucoup.
Bonjour Hélène.
Bonjour.
Alors, j'aimerais tout d'abord que vous nous expliquiez le concept original de cette exposition. Et de son titre.
Alors, ça remonte en fait à mon arrivée de Saint-Étienne sur Cré, parce que à Saint-Étienne existe encore une exposition qui s'appelle Éphémère Éphéméride, que j'avais eu la chance de voir et d'admirer. Le concept était le même, rassemblement de 31 artistes qui tirent au hasard une date par mois et qui doivent réaliser une œuvre en fonction de cette date. Je suis donc arrivée à Cré avec ce concept dynamique, amusant, ludique en tête. Et quand on m'a proposé ou présenté la propriétaire de la galerie Espace Liberté, sa présidente, je lui ai proposé ce concept pour réaliser une exposition dans sa galerie. Et elle a été tout à fait confiante et adhérente à ce projet-là. Nous avons mutualisé son réseau d'artistes qu'elle connaît bien sur la vallée, puisqu'il y a d'abord un puits d'artistes, c'est extraordinaire le nombre d'artistes qu'on a sur le Val-de-Drôme, et puis ceux que moi je pouvais connaître de Saint-Étienne. Et avec un groupe d'une soixantaine de personnes, nous avons ensemble, tous les 60, et Laurence et moi, imaginé et construit la première exposition. La construction, les réunions, la préparation de tout ça, ça s'est fait avec 4 ou 5 réunions collectives, où nous avons ensemble défini le titre et les règles de fonctionnement du groupe.
Donc, vous êtes l'initiatrice de cette biennale, puisqu'il s'agit d'une biennale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand a eu lieu la première ?
Alors, la première, justement, les réunions de préparation se sont déroulées en 2014-2015. Les dates ont été tirées au sort fin 2014 pour une exposition fin 2015, le novembre et décembre 2015. Ça devient une biennale parce que d'abord, au départ, je pensais que ce serait une seule fois, point final, une jolie fête. Mais il y a eu un tel succès et tellement de candidats qui, pendant l'expo, ont posé leur candidature que du coup, la galerie a demandé à ce qu'on renouvelle cette aventure. C'était effectivement très, très, très dynamique. Et donc, c'est cette première aventure en 2015 où on a défini le titre, où on a défini les formats également, les 20-20, le fait également que tout le monde exposerait au même prix, ça a fait des gros débats à chaque fois. Et donc, c'est tout ça qui a créé une dynamique de groupe.
Alors, vous dites que la Drôme est un réservoir d'artistes, donc comment se fait la sélection ?
D'abord et avant tout à partir des candidatures qui nous sont déposées tout au long de l'année. La galerie Espace Liberté reçoit par courrier ou par mail énormément de candidatures spontanées. Quand on regarde les dossiers des artistes, ce qu'ils nous envoient, le petit groupe de bénévoles qui gère la galerie dit ben ça peut relever plutôt pour au jour le jour ou plutôt pour une exposition seule ou à plusieurs ou une exposition thématique. En fait, la sélection se faisait au départ par un seul groupe, les bénévoles de la galerie. Et puis, compte tenu des très nombreuses candidatures qui sont posées pendant l'exposition elle-même, en fait, on envoie un appel d'offres depuis maintenant 2020. on envoie un appel d'offres et il y a un comité de sélection que Lino de la Barrera avait créé, composé d'artistes, d'amateurs d'art, et qui donc regarde le retour des dossiers hein, et sélectionne 31 artistes plus quelques-uns en liste d'attente pour faire partie du groupe. Les critères sont à la fois de changer le nombre, les nouveaux, hein, qu'il y ait un renouvellement dans le groupe d'artistes. Cette année, par exemple, nous avons 25 nouveaux sur 33 artistes. C'est énorme. Et puis, on garde quand même quelques anciens parce que ben, leur expérience fait qu'ils sont un peu moteurs dans le groupe. Mais l'autre critère essentiel, c'est la diversité du médium de création.
D'accord. Ouais. Alors, toutes les œuvres sont au format 20-20 et avec un prix identique. Hein.
C'est ça.
Bon, ces règles sont strictes. Comment ont-elles été élaborées ?
Alors,
est-ce qu'elles conviennent à tout le monde ?
Les personnes, quand ils posent leur candidature dans l'appel d'offres, ces conditions de participation sont écrites. Alors, donc, s'ils répondent, ils sont informés.
D'accord, mais 20-20 se prête plus facilement au médium peinture qu'à d'autres médiums.
Pas nécessairement. Ça, c'est peut-être une représentation que le public peut avoir. Mais en métal, on arrive à faire des choses très originales. En photo aussi. C'est vrai que certaines photos mériteraient à chaque fois, mais même des tableaux, mériteraient d'être tirés en bien plus grand. C'est toujours possible, de toute façon, de prendre contact avec les artistes et de négocier ou de voir avec eux une éventuelle commande d'un format plus grand que les 20-20. Mais le 20-20, pour les artistes, ils le savent dès le départ. Là, on a de l'art textile, c'est extraordinaire ce que ça a été comme difficulté ou contrainte, voire même parfois, c'était trop grand, le 20-20. Donc, selon la création, en céramique 20-20, ça peut se faire, puisque c'est pas un 20-20 nécessairement en 2D à plat.
Voilà.
Ça peut être un 20-20 en 3 dimensions, mais on se donne quand même une limite de 10 cm maximum de profondeur, parce que sinon, en termes d'éclairage, il y aurait des ombres portées sur les voisins, sur les œuvres voisines, qui seraient préjudiciables aux œuvres d'à côté, quoi. Donc, c'est 10 cm de profondeur maximum. Mais en sculpture, cette année, nous avons également un travail de collage sur carton, sur bois, des découpes, où il y a des petites boîtes, il y a quelqu'un qui nous a fait des origamis, Patricia Guérard a fait des origamis superbes, mis dans des caisses. On a un travail de Christine Astruc en broderie remarquable qui a de la profondeur aussi, et le travail de collage de Marie Pouillaud, par exemple. Enfin, c'est à chaque fois des coffres. Il y a 2 ans, Gilles Rode avait aussi fait des petits coffrets comme ça, avec plusieurs créations à l'intérieur.
Est-ce que le Covid a eu une incidence sur le fonctionnement ?
Un peu. Nous, en fait, les biennales, c'est les années impaires. On a terminé la biennale de 2019, euphorique, grand succès. Et le Covid est arrivé juste après, dans la foulée. Donc, ça a transformé un peu nos modalités de sélection et nos modalités d'accompagnement. Jusqu'avant 2020, les groupes à chaque fois se réunissaient 5 ou 6 fois dans l'année pour définir les règles et surtout pour faire groupe. Les 31 ou 33, 34 artistes se réunissaient avec les 2 commissaires de l'expo principaux. Ce qui a été innovant, et finalement très bénéfique, je crois, en 2020, c'est que quand on a lancé l'appel d'offres et fait la sélection, on s'est retrouvé avec un groupe que nous n'avions pas le droit de rassembler. Donc c'est l'ensemble des bénévoles qui gèrent la galerie qui sont devenus des référents de petits sous-groupes, voire qui ont accompagné individuellement les artistes. On a divisé le grand groupe en petits sous-groupes et les référents devaient accompagner pour être sûrs que les artistes aillent jusqu'au bout, les soutenir dans cette période effectivement difficile et où l'isolement était renforcé. Eh bien, il y a eu des très très belles rencontres qui se sont passées grâce aux déplacements et à l'implication des bénévoles. Et le résultat, ça a été qu'on n'a eu qu'une seule grosse réunion pendant l'été ou fin printemps 2021, 3 mois avant l'exposition elle-même, et que cette réunion, ça a été une fête extraordinaire parce que tout le monde attendait de se retrouver. Et donc, évidemment, au lieu de se voir 5 fois, on s'est vu que 2 fois avant l'expo. Et il y a eu quelques incidences peut-être un peu dans le groupe. Je ne sais pas si c'est que lié au Covid, mais en tout cas au manque de réunions de préparation, ça c'est sûr. Le groupe était moins dynamique en termes de groupe. Chaque artiste a été particulièrement impliqué, mais la notion de groupe était moindre pour l'exposition de 2021. On s'est largement rattrapé en 2023, puisque nous avons eu nos 5 réunions dans les ateliers des uns et des autres. On a été invités chez les artistes, mais la galerie avait décidé de garder cette dynamique quand même d'un référent en sous-groupe. Donc il y a eu et le collectif et les sous-groupes, et je crois que ça a été très apprécié.
Il semble que le fonctionnement de la galerie soit très collégial. Est-ce que vous pourriez expliquer comment ça se passe? Parce que moi, j'ai connu l'époque où Laurence était responsable de la galerie, choisissait ses artistes exposés, et cela a bien changé.
Oui. Depuis 2013, où je suis arrivée dans le coin, moi j'ai eu cette chance de rencontrer Laurence très rapidement, qui était avec Clara, elles étaient deux à porter l'ensemble de la dynamique de la galerie, là. Et Laurence s'épuisait. Elle a donc rassemblé à l'occasion d'une assemblée générale beaucoup d'amis, beaucoup d'adhérents, il y avait pas mal de monde qui est venu, en disant « j'ai besoin d'être entourée, sinon je ferme ». Quel dommage c'eût été pour la ville de Cray que de perdre cette galerie, cet espace de promotion des artistes vivants, parce que je crois qu'il y a toujours eu ça comme arrière-plan, c'est que c'est vraiment la promotion d'artistes vivants. Et donc depuis, il y a d'abord eu un passage de relais avec Laurence est d'abord restée présidente, puis il y a eu un système d'association 1901 classique avec présidente, secrétaire, trésorier, etc. pendant 2 ans. Et puis, depuis maintenant 5 ans, l'association tourne avec une direction dite collégiale, c'est-à-dire que les bénévoles qui dirigent, oui, parce qu'il faut diriger, il faut prendre des décisions, sont tous à part entière pénalement responsable de la même façon. Il n'y a pas un trésorier, un secrétaire, un président désigné. Nous nous rassemblons tous, parfois une fois par semaine, parfois une fois par mois, quand on peut un peu souffler, mais ça prend énormément d'énergie. Personnellement, je suis là, j'étais là que pour au jour le jour, maintenant je suis là à temps plein, réellement, pour gérer la galerie. C'est passionnant parce que entre visites d'ateliers et autres, on essaye de faire ça ensemble. On va visiter des expos, ensuite on décide, nous, d'une politique ou d'un projet associatif et qu'on réalise à plusieurs. Et autour de ce cercle de 5 bénévoles impliqués, dit le collège, nous avons une 20aine d'autres bénévoles qu'on va appeler les amis de la galerie qui viennent nous aider pour réparer les vernissages. Pour faire le ménage, c'est ingrat mais c'est concret, pour faire de l'affichage dans toute la ville, pour réaliser des petits mobiliers, nettoyage, réparation de l'électricité, faire les banderoles et les flyers. Voilà, chacun peut mettre des compétences au service de la galerie et ça fonctionne en bonne intelligence parce qu'on s'appuie vraiment sur ce que les uns et les autres peuvent faire. Nul n'est contraint de faire quelque chose qui serait pesant. Donc, quand on se retrouve, on le fait dans la bonne humeur.
Oui, effectivement, il y a un grand dynamisme. Vous proposez aussi, pendant chaque exposition, un spectacle, des lectures, de la danse, de la musique.
Oui, la devise de la galerie, c'est regarder, écouter, voir autrement, quelque chose comme ça. Et effectivement, il n'y a pas que à voir de l'art. Les chorégraphies, la danse, la musique, c'est autre chose, ça s'écoute, ça se ressent, c'est les émotions de l'expression artistique qu'on essaye de mettre en avant. Et nous avons effectivement, mais ça c'est Laurence qui l'avait initié, à peu près à chaque exposition, au moins un spectacle, souvent des concerts, mais de la chorégraphie, ça c'est assez fréquent, nous avons des danseurs qui viennent. Nous avons, comme vous le disiez, les lectures d'un certain nombre de textes, parce qu'il y a beaucoup de poésie aussi dans la région. Il y a des maisons d'édition, il y a des collaborations qu'on crée aussi avec certains lieux de culture dans la ville. Et oui, on essaye d'être vigilant à ça, parce que ça touche aussi un autre public que celui qui vient dans la galerie. Il y a encore, je trouve, trop de personnes qui n'osent pas franchir la porte d'une galerie. On est toujours très agréablement surpris quand des personnes nous disent « Ah ben, j'ai entendu dire, mais j'osais pas venir, je connaissais pas la galerie. » Presque à chaque exposition, il y a des personnes qui pourtant passent devant régulièrement, habitent dans le quartier, mais n'osent pas pousser la porte de la galerie. La galerie est un espace gratuit, ouvert à tous, avec un temps de convivialité où on peut prendre le temps de lire des livres, de prendre un café, un thé ou autre chose ensemble, de rencontrer les artistes qui sont quand même souvent présents et on essaye voilà, d'attirer un public le plus varié possible.
C'est bien de le rappeler. Et est-ce que des classes sont venues à cette exposition au jour le jour?
Alors oui, déjà plusieurs. Et là, le planning jusqu'aux vacances de Noël est bien plein. Nous laissons toujours des journées fermées pour le public, mais du coup ouvertes aux scolaires. Parce que ça nécessite d'aménager un petit peu la salle. On transforme, on met des tapis par terre pour que les enfants puissent s'installer. Donc régulièrement, les professeurs des écoles adhèrent et soutiennent nos initiatives ici et viennent avec leurs élèves. Et puis, ce qui est absolument génial après, c'est quand on voit aussi que les élèves reviennent avec leurs parents dans le week-end qui suit. J'ai vu ci, j'ai vu là, viens voir, je te montre, j'ai préféré celui-ci. Enfin, et des parents qui n'auraient pas eu nécessairement l'idée de venir à la galerie. Et ça, c'est absolument génial.
Une petite question personnelle, Hélène. J'avais remarqué vos céramiques dans une des précédentes biennales.
Oui.
Vous êtes actuellement surtout dans la gestion. Il n'y a pas un petit regret, là? Et avez-vous encore du temps?
Regret, non. Je suis trop jeune pour regretter quoi que ce soit. J'ai le temps devant moi pour faire plein de choses. Il y a de la frustration. Voilà. J'aimerais effectivement pouvoir me contraindre moi-même à ce qu'on demande à l'ensemble des artistes pour au jour le jour de faire. Ça me confortait. C'est vrai que les trois premières éditions, Je faisais partie du groupe d'artistes en même temps que le pilotage. On m'a demandé de ne pas être jugée partie, ce qui s'entend complètement, donc je me suis retirée. On m'a demandé de revenir, je repars, je reviens. Bon, ça se peut que pour pouvoir participer en tant qu'artiste, je me retire complètement de l'organisation. Ça, c'est sans doute ce qui va se passer cette année. Je passe le relais. Je crois qu'il y a assez de bénévoles qui ont pigé tout le concept. Je suis en train de sélectionner, de trier tous les papiers pour qu'il y ait de la matière, et Dieu sait qu'on en a, pour pouvoir reprendre assez facilement le flambeau. Je crois savoir que le Collège de la Galerie n'a pas du tout envie que ça s'arrête, parce que c'est une exposition qui attire, qui est très populaire. C'est un rendez-vous crétois. Enfin, quand on voit que cette année, le 11 novembre, jour du vernissage, pendant la journée, nous avons eu 600 visiteurs, je crois que c'est un incontournable au jour le jour d'ancrer maintenant, et que ce serait terrible si on arrêtait ça, quoi.
C'est aussi une source de cadeaux superbes pour Noël.
Comme vous dites, superbe, parce que c'est quand même un petit investissement, mais en même temps, nous n'exposons que des pièces uniques. Et pouvoir faire un cadeau à 120 € pour une œuvre de créateur unique, c'est effectivement une bonne période. Noël, il y a la phase cadeau. Il y en aurait tout le temps aussi, hein, pour les fêtes des mères, les fêtes des pères, les mariages. On peut venir chercher des petits cadeaux artistiques exceptionnels à la galerie pendant toute l'année. C'est d'ailleurs quelque chose d'un peu nouveau qu'on va essayer de garder. C'est-à-dire que nous envisageons de garder les œuvres des artistes qui exposent pendant un an. Quelques œuvres, les artistes nous laisseraient en dépôt à la galerie quelques œuvres, comme ça quelqu'un qui a loupé une expo peut venir voir quand même quel était le travail de tel ou tel ou tel artiste qui a exposé. Et je crois qu'il n'y a rien de tel quand même que de voir une œuvre originale plutôt qu'une photo. Bien. C'est, voilà, donc de la voir, de la toucher, de voir le format, de voir la taille. C'est pas pareil un tableau qui est peint sur bois ou qui est peint sur toile. Voilà, tout ça, à partir de mars 2024, on pourra venir voir les œuvres des anciens exposants à la galerie.
Hélène, pouvez-vous nous rappeler les dates importantes des manifestations qui ponctuent cette exposition, ainsi que la fin?
Alors, cette année, donc, nous avons encore un mois devant nous pour l'exposition, puisque nous terminerons le 31, jour de fête, et le 31 décembre, nous clôturerons l'exposition. Néanmoins, avant, une date importante, le 22 décembre, parce que pour les fêtes de Noël, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une période de cadeaux, et que le 22, il sera possible de venir chercher et d'emporter les œuvres, et que vous savez que nous organisons toujours un grand jeu de tirage au sort d'une œuvre ou de plusieurs œuvres, et que jusqu'au 22 à 17h, il sera possible d'acheter un ticket pour participer à ce grand jeu. Et quand vous parlez des manifestations, je pense que vous faites allusion au concert dont nous avons parlé, pour nous, pour l'importance qu'il y a. Donc, samedi prochain, le samedi 9 décembre, Song Sparrow, un groupe de 3 personnes avec musique, folk song et chant, à 20h, participation aux frais de 10 €. Et puis, pour terminer, juste avant les fêtes vraiment de Noël, notre dernier concert de l'année sera avec le groupe Iliade, un quatuor à cordes crétois, ou en tout cas du coin, pour un concert de musique de chambre qui passe très très bien, directement les instruments, sans amplificateur, sans rien, dans la galerie où il y a une résonance tout à fait adaptée, donc à de la musique classique, musique de chambre, concert de musique de chambre, le 16 décembre, au soir, pareil, 20h, et participation aux frais, 10 €.
Eh bien, Cré ne peut que se féliciter d'avoir une galerie aussi dynamique Et je vous remercie, Hélène, pour votre implication. Merci, non, Hélène.
Merci à vous de soutenir ce qu'on fait à la galerie, parce que vous êtes un super relais. Merci beaucoup.